Bonjour à tous, c'est avec joie que je suis aujourd'hui en présence du Chir Mohamed Nokari, qui se trouve en ce moment même au Liban. Donc, Monsieur Mohamed Nokari, vous êtes juge, docteur en droit de l'Université de Poitiers en France et également enseignant à la faculté de droit de Saint-Joseph et à la faculté de sciences religieuses à Beyrouth au Liban. C'est bien ça ?
Oui, exactement. Oui, exactement, c'est ça.
Voilà. Et donc, je vous ai invité pour nous parler d'un événement qui est vraiment extraordinaire à mes yeux, qui est peu commun et qui mérite vraiment d'être entendu et partagé partout. C'est pour au sujet de la fête que vous venez de célébrer de Marie au Liban. Et donc, c'est un projet dont vous êtes à l'initiative avec votre ami Nagui Khoury, qui est chrétien. Et donc, vous êtes musulman. Et depuis 2010, donc, vous avez créé ce projet Ensemble pour Marie, qui a fait que le jour de l'Annonciation, le 25 mars, est devenu une fête nationale au Liban qui réunit toutes les religions.
Voilà. Oui, exactement, oui, c'est ça.
Voilà, donc c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet avec Monsieur Nagui Khoury.
Oui, exactement, oui. Alors, le projet a pris naissance entre le Liban et la France. Quand j'étais en France, j'ai donné beaucoup de conférences au sujet de la Sainte Vierge. Et j'ai senti, avec les questions qu'on me posait, que ni les chrétiens ni les musulmans ne savaient pas que dans le Coran, il y a un intérêt capital à la Sainte Vierge. Il y a un verset coranique qui porte son nom, s'appelle Mariam, le verset Mariam. Et aussi, le nom de Marie est cité 37 fois dans le Coran. Et quand on parle de Marie, on parle d'elle comme la meilleure femme de l'univers.
Ah oui.
Pour cela, quand j'étais en France, les gens m'interrogeaient, mais comment ça se fait que vous êtes musulman et vous intéressez à la Sainte Vierge ? J'expliquais que la Sainte Vierge était importante pour nous, les musulmans. Nous devons, en tant que croyance religieuse, croire à la virginité de la Sainte Vierge et en plus au fait qu'elle est Immaculée Conception. Vous savez que l'Église catholique a adopté le dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854.
Oui.
Alors l'islam, il y a 1437 ans, il a déclaré que la Sainte Vierge était Immaculée Conception.
Ah oui, incroyable.
Oui.
Incroyable.
Oui.
Comment ça se fait que personne n'en parle?
Mais oui, mais c'est ça ce qui est bizarre, que personne ne parlait de ça. Alors, j'ai pris l'initiative de parler de ça en France et après au Maroc, dans le pays où j'étais invité pour faire des conférences. Et après, à la cathédrale de Lyon, parce que je fais partie du GRIC, qui est un groupe de recherche islamo-chrétien qui a été fondé par les Pères Blancs. Le Père Blanc, c'était le prêtre qui était en Algérie.
Oui, dans
pour
le
cela,
désert.
On les appelait. Oui, c'est ça, exactement.
Oui.
Alors, le groupe a été fondé par eux. Et moi, j'ai fait membre de ces groupes. Une fois, j'étais à Lyon. J'ai déclaré qu'il n'y a pas d'objection dogmatique à ce qu'un musulman fête une fête mariale avec les chrétiens. Et j'ai annoncé ça au Maroc. Après, quand je suis rentré au Liban, j'ai vu Nagui Khoury et il m'a posé une question. C'était un chrétien, Nagui Khoury.
Oui.
Il m'a posé une question. Est-ce que musulmans et chrétiens, pouvons-nous prier ensemble? Alors moi, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, Nagui, il n'y a que la Sainte Vierge qui peut nous réunir. Oui, bien sûr, nous pouvons rester ensemble et partager la les mêmes convictions sur la Sainte Vierge. Alors, elle était tellement contente que on a réuni une commission spirituelle qui existait à Notre-Dame de Jamhour, parce que Nagy faisait partie de Jamhour, était le secrétaire général de l'Amicale, et on a organisé une fête à l'intérieur de l'école, et on a invité le gouvernement et beaucoup de personnalités importantes à cette fête. Et à ce moment-là, l'émission a été transmise en direct, et il y avait le premier ministre qui s'appelait Mikati, qui était en train de regarder la télévision. Il a vu que deux chairs qui sont à l'intérieur d'une église, et ils sont en train de parler du Coran, de la Sainte Vierge, de l'Évangile, des prières musulmanes, des prières chrétiennes. Elle était tellement étonnée qu'il a appuyé tout de suite notre action. Et en 2008, pendant le 25 mars, pendant la cérémonie de la fête de l'Annonciation, j'ai demandé au gouvernement de faire du 25 mars une fête nationale qui réunit les musulmans et les chrétiens autour de l'Annonciation. Alors le gouvernement s'est réuni le lendemain et ils ont accepté l'idée. Mais ils ont accepté à ce qu'elle soit une fête nationale, mais pas chômée. Alors j'étais obligé après, avec Nagy Khoury, avec le ministre Edde, qui était un ancien ministre, qui est très respecté, et un autre ministre, Brahim Shamsuddin, on est allé visiter président de la République, le Premier ministre, qui était en fonction, et on lui a demandé à ce que le 25 mars soit une fête nationale chômée. Et en 2010, quand on est allé le voir, il a dit, moi, dans trois jours, je vais aller voir le pape au Vatican et je vais déclarer dès chez lui, du Vatican, que le 25 mars est devenu une fête nationale pour les musulmans et les chrétiens, mais une fête chômée. Alors, c'est ainsi qu'en 2010, le Premier ministre, après l'accord de tous les membres du gouvernement, ont accepté à ce que le 25 mars soit une fête nationale chômée pour les musulmans et les chrétiens. Alors jusqu'à maintenant, depuis 2010, c'est devenu une fête nationale et on se réunit le 25 mars, musulmans et chrétiens, pour invoquer l'histoire de la Sainte Vierge et pour prier chacun à sa façon la Sainte Vierge.
Ah oui, quelle histoire incroyable!
C'est vrai.
Et vous parlez de Monsieur Nagy Khoury, qui devait justement être avec nous pour cette interview.
Oui, c'est ça.
Voilà, puis
oui,
finalement,
mais
il a eu des contretemps, je le précise.
Oui, c'est ça, exactement. Mais il m'a chargé de vous saluer et peut-être la prochaine fois, il sera avec nous si il y aura d'autres émissions.
C'est déjà, je trouve même encore plus, comment dire, percutant de vous entendre vous parler de ce projet-là en tant que musulman. Et justement, je voulais vous demander, quelle est la place de Marie dans l'islam, en fait? Quelle est sa place?
Oui. Alors, tout d'abord, il y a la famille qu'on appelle la famille d'Al-Omran, la famille de la Sainte Vierge, qui a une place importante dans le Coran et dans l'islam. Et on sait que la mère de la Sainte Vierge a voulu donner la Sainte Vierge au service du Temple. Et comme le service du Temple était accordé aux hommes à l'époque et non pas aux femmes, et quand Marie est née et sa mère a vu qu'elle était une fille et non pas un garçon, elle a dit, mais quand même, je laisse le soin à Dieu de la consacrer au temple. C'est ainsi que la Sainte Vierge était la première femme du monde, qu'elle soit pour être au service de Dieu dans le temple. Et après, le Coran place la Sainte Vierge comme la meilleure femme de l'univers, non pas seulement dans notre vie sur Terre, mais aussi au paradis. On considère la Sainte Vierge comme la meilleure femme au paradis. Et le Coran mentionne 37 fois le nom de la Sainte Vierge et parle de l'Immaculée Conception, et on dit que c'est elle la première femme de l'univers, de l'univers, soit sur Terre, soit dans l'univers, que les anges se sont adressés à elle. Parce qu'on sait que l'ange Gabriel s'est adressé à elle et s'est présenté à elle. Après toute l'histoire de l'Annonciation, comme est décrite dans l'Évangile et décrite aussi dans le Coran, presque dans la même histoire, les mêmes termes et le mot Annonciation existe dans les deux chapitres consacrés à la Sainte Vierge dans le Coran et dans l'Évangile. Et après, la place de la Sainte Vierge occupe vraiment la place le plus important dans le Coran, parce que même la mère du prophète Mohammed n'est pas mentionnée, ni son nom, ni rien d'elle.
Ah oui, c'est incroyable.
Oui, aucune autre femme n'est mentionnée dans le Coran. C'est seulement le nom de Marie, qui est mentionné, qui est la mère de Jésus.
Que vous appelez Issa, c'est bien ça?
On l'appelle le Messie, on appelle Issa. Le 2.
Vous l'appelez le Messie aussi?
Le Messie à Issa. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est le Messie. On croit en lui en tant que Messie. Et Issa, encore, Issa vient de l'araméen Isho, c'est-à-dire Jésus, comme on dit en français, en araméen Isho, et en arabe Issa. C'est le même origine, l'origine du mot, c'est le même. Oui. Qu'il soit Jésus, ou en arabe Yeshua, ou Issa, c'est la même signification. Pour cela, le Coran accorde un intérêt capital à Sainte Vierge, et on raconte aussi des histoires qui ne sont pas mentionnées dans l'Évangile, comme quoi elle était au temple au service de Dieu, et elle recevait sa nourriture du paradis. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on Zacharie, vous connaissez le prophète Zacharie, quand il rentrait la voir au temple, il lui demandait d'où vient la nourriture, parce qu'elle était renfermée dans son temple. Alors, il lui disait, il était étonné, parce qu'il voyait, comme nous croyons aux musulmans, il voyait des fruits divers et chez Marie pendant l'été, et des fruits d'été et chez Marie pendant l'hiver. Alors il était étonné comment ces fruits sont rentrés chez elle, et Marie répondait, c'est Dieu qui me donnait tout ça. Pour cela, la Sainte Vierge était entourée depuis sa naissance jusqu'à son retour au ciel par beaucoup de gestes que le Coran mentionne. Parmi les histoires de l'accouchement de la Sainte Vierge, le Coran mentionne qu'une fois elle voulait donner naissance à Jésus, elle s'est réfugiée près d'un palmier et Dieu lui a dit de secouer le palmier pour que de date, le fruit de date, tombe sur elle et qu'elle mange et nourrit son enfant. Alors, on sait très bien, et je crois au Guadeloupe, vous savez que personne ne peut bouger le palmier. Même s'il y a une vingtaine de personnes, ne peuvent pas bouger un palmier.
Oui.
Alors, Dieu a donné cette force à la Sainte Vierge qui vient d'accoucher. Et dès qu'elle touchait le palmier, les dattes tombaient sur elle. Alors c'est encore, c'est de des miracles qui ont été accordés à la Sainte Vierge. Alors, tout cela pour vous dire que vraiment la place de la Sainte Vierge dans le Coran occupe la place la plus importante parmi toutes les femmes de l'univers.
Oui.
Et quand vous savez que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est un dogme catholique,
oui.
C'est-à-dire ce n'est pas toutes les confessions chrétiennes croient à ça.
Justement,
c'est
ce que je voulais aborder avec vous. Il y a ce dogme de l'Immaculée Conception, le fait aussi qu'elle soit vierge n'est même pas acquis, un facteur un petit peu de désaccord chez les chrétiens eux-mêmes. Et donc, c'est d'autant plus incroyable que cet aspect soit commun avec l'islam.
Oui, exactement. On croit à sa virginité et elle a défendu sa virginité devant les Juifs, devant les Israéliens, quand ils étaient étonnés comme quoi elle a eu un enfant et ils savaient qu'elle n'était pas mariée. Et la Sainte Vierge a défendu sa virginité et c'est son fils, c'est Issa, c'est le Messie, qui a parlé et qui a innocenté sa mère.
Ah oui.
Oui. Ah oui, c'est mentionné dans le Coran aussi.
Ah oui, ah oui, ça ne l'est pas dans l'Évangile.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui. Et vous disiez tout à l'heure que ce dogme catholique de l'Immaculée Conception est finalement aussi agréé
dans le Coran. Il y a 1437 ou 38 ans à peu près. Et dans le verset coranique cite ce dogme et après les paroles du prophète Mohammed qui souligne aussi que le fait qu'elle était Immaculée Conception. Et on dit que elle et son fils étaient protégés de toutes les actions du diable. Et bien sûr, nous avons pensé au début, avant de penser à l'Annonciation, parce que j'ai parlé moi de la fête mariale. Alors j'ai pensé tout d'abord à l'Immaculée Conception, mais ensuite, quand j'ai vu que c'est seulement les catholiques qui ont ces dogmes de l'Immaculée Conception, alors je me suis orienté vers l'Annonciation qui est acceptée par presque toutes les confessions chrétiennes, sauf, vous savez, un petit peu les évangélistes qui n'accordent pas la même place pour l'Annonciation.
Ah oui, oui. Et puis vous parliez tout à l'heure de la place de l'ange Gabriel, donc ça sera l'occasion, j'espère, d'une autre émission parce qu'effectivement...
Oui.
Effectivement, l'ange est présent dans toutes les religions et c'est quelque chose aussi que je vous redemanderai puis que j'aimerais aborder.
Oui, bien volontiers, bien volontiers. J'aimerais ajouter que cette culture, parce que maintenant l'Annonciation est devenue une culture internationale. Si vous ouvrez à Google ou n'importe quel moyen de médias, de télévision ou de presse, vous allez voir que beaucoup de les initiatives musulmanes et chrétiennes se déroulent dans beaucoup de pays autour de la Sainte Vierge. En France, ça fait plusieurs années qu'on organise des fêtes communes. Moi, j'ai participé à quelques-uns. L'année dernière, c'était à la Grande Mosquée de Paris qu'on a fêté l'Annonciation. Et chaque année, on fête l'Annonciation à Lompon. C'est une cathédrale qui a été fondée au XIe siècle aussi sur le mémoire de la Sainte Vierge. Et on le fait en Belgique, en Italie, en Brésil, en Australie, au Canada, en Tunisie. Alors, plusieurs pays ont adopté cette idée de fête. Bien sûr, ce ne sont pas de fêtes nationales comme au Liban, mais ce sont de fêtes communes où musulmans et chrétiens se réunissent.
Et voilà, et donc, petit clin d'œil aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ma maman qui m'a abonnée à la Minute de Marie, qui est un petit texte que je reçois chaque jour par mail, eh bien aujourd'hui parle du Liban et parle exactement de cette initiative.
Quelle coïncidence.
Hein. Oui. Le Liban se confie à la Vierge Marie et voilà, et met en valeur la fête de la solennité de l'Annonciation.
Oui, exactement, oui. Alors, non, c'est bien, parce qu'au Liban, on fait beaucoup des actions en commun entre musulmans et chrétiens. Le dialogue islamo-chrétien, c'est notre pain quotidien au Liban.
Oui.
Nous vivons vraiment cette vie commune extraordinaire entre nous. Et par exemple, des cours à l'université sont donnés conjointement par un prêtre et par un cheikh. La même matière qui est enseignée en même temps par l'imam et le cheikh ou l'imam et le prêtre.
Et
beaucoup, je vous donnerai peut-être un autre exemple peut-être vous allez être étonnés complètement. C'est qu'on a au Liban la radio du Coran, c'est-à-dire c'est une radio religieuse qui diffuse des émissions religieuses centré sur la lecture du Coran et sur la lecture de paroles du prophète. Les membres du conseil d'administration sont divisés entre musulmans et chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des membres du conseil d'administration de la radio du Coran sont des chrétiens et l'autre moitié sont des musulmans.
Ah oui,
alors, on ne trouve pas ça dans les autres pays. C'est seulement le Liban qui a adopté cette initiative.
C'est effectivement incroyable. Et je voudrais aussi souligner justement, dans ce contexte de dialogue interreligieux, c'est notre amie commune Rita Ayoub qui fait partie de cette initiative de dialogue entre chrétiens et musulmans qui nous a mis en rapport, et donc je la salue dans la même occasion.
Oui, c'est vrai, elle est notre amie et vraiment elle travaille d'une façon merveilleuse pour le dialogue entre musulmans et chrétiens.
Et voilà, notre interview va se terminer. Je voulais quand même vous demander, dans le contexte actuel, on est en pleine actualité avec tout ce qui se passe en Syrie, et je voulais vous donner le petit mot de la fin parce que c'est quand même un pays, je n'avais pas prévu cette question, mais ce sont quand même vos voisins les plus proches.
Et
nous exprimer un petit peu votre ressenti sur la situation, sur ce qui se passe en Syrie actuellement.
Oui, c'est malheureux ce qui se passe en Syrie et en Irak aussi. Moi, j'ai envie de dire un mot sur ça, c'est que les grandes puissances qui ont des intérêts géostratégiques dans la région font tout pour dominer ces pays. Alors s'ils nous laissent tranquilles et s'ils nous laissent en paix, je crois qu'on peut vivre sans ces guerres d'intérêts géostratégiques et économiques. Qu'ils nous laissent en paix et nous, on est capable de vivre en paix et de donner des exemples de vie commune extraordinaire entre les différentes populations en Syrie, parce que vous savez qu'en Syrie, il y a des chrétiens, il y a une majorité musulmane, il y a d'autres minorités religieuses.
Oui.
Alors, la vie était vraiment stable en Syrie, mais à partir du moment où les grandes puissances s'ingèrent dans nos affaires, il y aura toujours la guerre dans nos pays. Tout ça parce que, comme vous savez, que le Moyen-Orient c'est un endroit du point de vue géostratégique et du point de vue économique concernant le gaz et le pétrole, sa situation est très importante. Pour cela, cette guerre-là se déclenche chez nous. Alors j'espère que pour la Syrie, qu'elle se retrouve la paix et que le régime soit plus démocratique et respecte la liberté individuelle de tout le monde.
Eh bien, merci Mohamed Nokari pour ce mot de la fin. Je ne peux rien rajouter, vous avez tout dit.
Et, merci à vous.
Et encore merci. J'espère que je vous retrouverai prochainement pour d'autres...
J'espère.
Voilà, nous partager.
J'espère. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Alors, bon rétablissement et salutations à votre mari.
Oui, il est à côté, il vous salue.
Qui est derrière, oui, qui est derrière le micro.
Qui est derrière la technique, voilà.
Ok.
Merci. Alors,
j'espère à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.